Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans RTL midi, 1h30 de direct, vous savez, pour vivre et commenter l'actualité de ce mercredi. Bonjour Christelle.
Bonjour, bonjour à tous.
Un numéro à composer dès maintenant pour être avec nous, c'est le 3210, 3210, vous prenez les commandes, vos avis, vos regards, vos critiques. Vous pouvez nous rejoindre également sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Dans l'actualité Christelle, une avalanche de plaintes.
Celle de Marine Le Pen pour discrimination, plainte déposée contre la Société Générale qui vient de bannir les comptes de son parti. Elle dénonce une fatwa bancaire. Plainte des actionnaires d'Altis alors que le groupe dégringole à la bourse. La plainte vise la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Dans RTL Midi aussi, l'absentéisme au travail. Les arrêts maladie ont bondi de 7,5% entre 2010 et 2016. Secteur public et privé confondus. On monte même à 28% de hausse sur les 10 dernières années dans la fonction publique territoriale. Alors, y a-t-il un malaise au travail? Nous attendons vos témoignages. 32-10. Le téléenseignement, les adolescents du collège Saint-Exupéry de Vincennes vont devoir suivre les cours chez eux à cause d'une grave pollution de leur établissement. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Vous nous avez ramené le soleil.
Soleil et douceur cet après-midi sur une bonne partie du pays, excepté près de la Méditerranée où là le ciel restera assez nuageux avec un petit peu de pluie sur les Cévennes. Des nuages également qui vont s'installer cet après-midi sur le nord-ouest du pays à l'avant d'une perturbation qui donnera ses premières pluies en fin d'après-midi sur la pointe bretonne. Et puis surtout, le vent va se renforcer sur l'ouest du pays. On attend un petit coup de vent pour ce soir et cette nuit sur le nord-ouest avec des rafales à 100 km/h sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche. Et donc, les températures très douces cet après-midi, jusqu'à 22 degrés à Biarritz, 18 à Perpignan, 17 à Brest, 16 à Toulouse, 14 à Lille et Paris, 13 à Dijon et Reims et 12 à Nancy.
Et Patricia revient pour les détails du ciel avant 13h. Après 13h, ce sera une histoire, un jour sur la Terre avec Thomas Proutot à 13h50. Bien sûr, Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne les stages organisés par le syndicat enseignant Sud Éducation 93. Des stages non mixtes, interdits aux blancs pour que la parole se libère concernant des comportements racistes. Alors, est-ce que vous êtes choqué? Eh bien, vous répondez oui à 78%. On vous attend, le débat est ouvert, ça se passe au 32-10, comme avec ce premier auditeur.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je suis à la fois choqué et traumatisé parce que aujourd'hui on impose encore un communautarisme particulier, encore un extrémisme particulier. Notre pays n'est pas fait de division, mais bien au contraire de rassemblement. Et aujourd'hui, il y a encore des êtres humains qui trouvent à chercher des solutions pour se mettre de côté dans une idéologie qui est complètement étonnante.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et pour commencer, cette fusillade digne d'un polar ce matin devant la prison de Sequedin près de Lille. Fusillade au moment de la sortie d'un détenu. Franck Hanson, le comité d'accueil est en fuite.
Oui, en effet, un scénario qui ressemble à un règlement de compte. C'est un détenu âgé de 25 ans, de nationalité algérienne, qui avait été condamné notamment pour des vols et délits de fuite, qui était libéré. Et sur le parking, vers 10h30, un homme au moins l'attendait, visage masqué. Il lui a tiré dessus à plusieurs reprises, selon un gardien du syndicat UFAP, qui a assisté à la scène, pas très loin. Il a tout vu. Le détenu a réussi à se sauver dans une voiture. On ne connaît pas encore la nature de ses blessures. Son agresseur également est en fuite. Son véhicule calciné a été retrouvé pas très loin, complètement dans la nature. C'est la PJ de Lille qui est actuellement chargée de l'enquête. La maison d'arrêt de Sequedin à l'entrée de la commune est complètement bouclée. Il y a des militaires en armes qui bloquent ici les accès. Et selon le syndicat UFAP, on aurait pu assister à une fusillade encore plus grave avec cette fusillade. Donc le syndicat qui réclame de nouveaux aménagements à la sortie de cet établissement pénitentiaire.
Franck Hanson à Sequedin.
RTL Midi, c'est également une grosse colère, celle du Front National banni de la Société Générale, qu'il avait pourtant toujours soutenu. Évidemment, Marine Le Pen éructe. La présidente du parti dénonce ce matin une fatwa bancaire. Marie-Bénédicte Allaire, et elle porte plainte pour discrimination.
Oui, Marine Le Pen accuse, c'est pour des raisons politiques selon elle, que la Société Générale, pour le FN et HSBC, pour ce qui est de son compte personnel, ont fermé ses comptes, et ainsi que ceux d'une quinzaine de fédérations.
Les oligarchies financières sont tentées de porter atteinte à la liberté de parole, aujourd'hui. Nous sommes en présence d'une tentative d'étouffement d'un mouvement d'opposition.
Alors légalement, les banques ont le droit de fermer un compte en cas de doute sur l'origine des fonds, mais ça ne peut pas être le cas en l'occurrence, selon Marine Le Pen.
Mais vous savez, il existe un certain nombre de réglementations qui imposent à des banques, lorsqu'elles ont un doute, d'effectuer des vérifications. Toutes ces vérifications ont toujours été faites et personne ne nous a jamais saisi d'aucune inquiétude.
Et elle ironise sur son compte personnel. Les fonds proviennent des allocations familiales et du conseil régional des Hauts-de-France dont elle est conseillère, ce qui est facile à vérifier. Alors concrètement, le FN peut continuer à faire des virements mais ne peut utiliser de cartes bancaires ou de chèques. Marine Le Pen en appelle aux électeurs du Front National mais aussi et surtout au président Emmanuel Macron qu'elle a rencontré hier pour trouver une solution.
Marie-Bénédicte Allaire. Autre plainte, celle des actionnaires d'Altice, ce groupe de télécoms et de médias. En chute à la bourse, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur en un mois. Il porte plainte pour diffusion d'informations trompeuses. Christophe Ponzio, de quoi parle-t-on ?
Alors, en fait, l'avocat de ces actionnaires du groupe propriétaire, rappelons-le, de SFR, mais aussi de BFM TV ou de l'Express, vient de l'annoncer. Cette cinquantaine d'investisseurs estiment qu'Altice a minoré sa dette, qui s'élève aujourd'hui à près de 50 milliards d'euros. Il reproche aussi au groupe du magnat des télécoms, Patrick Drahi, d'avoir affirmé à tort avoir un contrôle absolu sur cette ardoise colossale entre 2015 et 2017, alors que les résultats sont inférieurs aux attentes. Alors donc, après cette claque boursière de ces dernières semaines, cette plainte est un nouveau coup dur pour Altice. C'est une première dans ce feuilleton boursier. Il y a 15 jours, Patrick Drahi avait déjà tenté de rassurer les investisseurs. Réorganisation du groupe, se concentrer sur ses basiques, avait-il dit, et éviter les acquisitions d'envergure à tout va. Mais ça ne prend pas. L'avocat des actionnaires mécontents d'Altice considère que l'attitude de Patrick Drahi est totalement irresponsable. Ce midi, l'action d'Altice à la Bourse d'Amsterdam est passée sous les 8 euros à la baisse, une fois de plus, en baisse de moins 3,7%.
Merci Christophe Ponzio. L'absentéisme à présent, l'absentéisme au travail. La France est quasiment championne d'Europe. Je dis quasiment parce que nous sommes juste derrière l'Italie. D'après deux études publiées aujourd'hui, les arrêts de travail ont progressé de 7,5% entre 2010 et 2016. Public et privé confondus, ils coûtent 60 milliards d'euros par an à notre économie. Quentin Vinet, c'est surtout dans la fonction publique territoriale que ce chiffre bondit.
Oui, plus 28% d'absentéisme en 10 ans, que ce soit dans les mairies, les départements ou les régions. L'étude du courtier en assurance Sofaxis montre que plus de 4 agences sur 10 se sont arrêtées au moins une fois au cours de l'année 2015, avec une hausse importante des accidents du travail. Pour y remédier, les députés viennent de voter le retour du jour de carence dans la fonction publique, où l'absentéisme est 50% supérieur à l'absentéisme dans le secteur privé.
Oui, dans le privé aussi, il y a de plus en plus d'absences.
Oui, c'était 32 absences pour 100 salariés en 2010. On est passé un peu plus de 34 l'année dernière, selon l'assureur Malakoff Médéric. Les employés du privé sont de plus en plus nombreux à s'arrêter et plus longtemps, malgré les 3 jours de carence. Cela représente 42 temps pleins pour une boîte de 1000 personnes. Pourtant, dans un cas sur 5, les salariés du privé renoncent à un arrêt maladie qui leur a été prescrit. Les raisons sont variées. Ils disent qu'ils regrettent après coup, mais ils expliquent que ce n'est pas dans leurs habitudes, qu'ils ont peur d'être surchargés de travail à leur retour ou qu'ils craignent la réaction de leur hiérarchie.
Quentin Vinet, 17 jours d'absence en moyenne sur l'ensemble de la population active. C'est aussi révélateur sans doute d'un mal-être au travail. On attend vos témoignages, à la fois salariés, employés, mais aussi chefs d'entreprise. Ça se passe dès maintenant, vous aurez la parole. Vous nous appelez au 3210. L'entreprise Ascometal et ses 1500 salariés placés en redressement judiciaire pour une durée de 6 mois. Décision du tribunal de Strasbourg ce matin. Deux groupes étrangers sont intéressés par la reprise.
Christophe Castaner avait fait ses adieux à la presse en tant que porte-parole du gouvernement la semaine dernière, mais pour l'instant, il occupe toujours ce poste. Il assure même en ce moment même le compte-rendu du Conseil. Le remaniement tarde, mais d'après nos informations RTL, c'est Benjamin Griveaux qui devrait le remplacer à ce poste et l'exécutif cherche une femme pour occuper le secrétariat d'État à l'économie à Bercy.
La suite de RTL Midi dans un instant, 12h39, et des collégiens contraints à suivre des cours virtuels.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Ils ont quitté le collège, mais l'école n'est pas finie. À Vincennes, 455 élèves du collège Saint-Exupéry ont dû évacuer rapidement à cause d'une pollution à des produits toxiques. Mais pas de déménagement vers un autre établissement. L'école se fera à distance, via un téléenseignement. Gauthier Delon-Bugard, vous êtes sur place pour RTL et certains redoutent que cet enseignement ne soit un petit peu trop virtuel.
Oui, ce téléenseignement concerne les élèves des classes de 5e, 4e et 3e. Les 6e ne seront pas concernés, ils seront accueillis dans un autre collège à proximité. Alors l'enseignement à distance est une solution provisoire qui durera jusqu'à Noël. Une demi-victoire pour les parents car la solution d'origine devait envoyer leurs enfants à plus d'une heure de chez eux. Mais apprendre derrière un écran d'ordinateur, cela dérange Nassima, sa fille est en 4e.
On a besoin de matériel. Est-ce qu'ils vont le procurer ? Comment regrouper les enfants ? L'enfant va être seul chez lui à écouter le prof. C'est plein de questions que les enfants eux-mêmes demandent, posent. Comment ce téléenseignement va être mis en place ? Je ne sais pas comment ça va concrètement marcher. On est très perturbés par cette situation.
Les réunions vont avoir lieu toute la semaine à l'inspection académique pour définir les contours de cet enseignement à distance et répondre aux interrogations des parents. Les cours devraient débuter lundi prochain. La mairie mettra une salle à disposition des professeurs et les regroupements ponctuels avec les élèves se feront à l'office de tourisme. Tout cela jusqu'en janvier. Après, il faudra trouver une autre solution. Un autre collège est proposé, mais il est à plus de 10 km et 7 stations de RER. Et cela, les parents n'en veulent pas.
Reportage RTL Gauthier de Lombes. La plainte pour diffamation du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Elle s'adresse au syndicat Sud Éducation de Seine-Saint-Denis qui veut organiser un stage comportant ce qu'il appelle des ateliers non mixtes, autrement dit les blancs et les personnes de couleur seraient séparés pour plancher autour du thème de l'antiracisme à l'école. Le ministre s'est donc indigné ce matin sur RTL.
Il faut arrêter de faire absolument n'importe quoi. Des gens cherchent à créer des tensions. On doit répondre sereinement mais fermement à ce type d'action qui a pour but, malheureusement, de créer le genre de trouble dans lequel on est. Donc on aurait envie plutôt de minimiser ce qui s'est passé plutôt que de donner trop d'importance. Mais en même temps, il faut dire stop. Et il faut dire stop, même si ça représente en réalité que quelques personnes qui prennent ce genre d'initiative, mais ça va contre les principes fondamentaux de la République. Il faut donc dire République.
Stop République, Jean-Michel Blanquer avec Yves Calvi. Et vous, est-ce que vous êtes choqué ? Dites-nous ce que vous en pensez, ça nous intéresse. On va dialoguer et ouvrir le débat. Ça se passe au 3210 3210.
À l'étranger, Ratko Mladic, condamné à la perpétuité pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie est condamné 20 ans après pour le génocide de Srebrenica. Il a dû être évacué de la salle d'audience du tribunal pénal international de La Haye ce matin après s'être levé et avoir crié, énervé au juge, qu'il mentait. Des retours au pays, d'abord Saad Hariri, le Premier ministre libanais qui assiste aujourd'hui à la fête de l'indépendance de son pays, annonce que sa démission est en suspens pour permettre, dit-il, davantage de consultations. Ça signifie que sa démission n'est peut-être pas définitive. Et puis au Zimbabwe, le vice-président Emmerson Mnangagwa rentre au pays aujourd'hui. À 75 ans, celui que l'on surnomme le crocodile sera investi président vendredi en attendant les élections l'année prochaine.
Christelle, le football, c'est simple, il y en a tous les soirs. Et ce soir, c'est PSG Celtic Glasgow, c'est au Parc des Princes. Paris devrait signer une 5e victoire consécutive dans le cadre des phases de groupe de la Ligue des Champions. Tout va bien pour le PSG. Départ parfait, Nicolas Georgerau, malgré un Brésilien, Neymar, pas tout à fait au taquet.
C'est vrai, avec ce sentiment que, comme à l'école par exemple, on pourrait inscrire sur le carnet de correspondance, bien, mais peut encore mieux faire. Et bien, c'est un peu ça avec Neymar, dont les prestations sont moins irrésistibles qu'il y a un mois. Son match contre Nantes samedi n'a pas été éclatant. Ses performances ne sont pas actuellement au niveau de son statut. Y a-t-il une explication ? Une baisse physique, un contre-coup ? L'ancien Barcelonais ne le cache pas non plus. Il profite de la vie parisienne, il sort beaucoup. Unai Emery, l'entraîneur parisien, l'a dit hier, ce n'est pas un problème selon lui.
Il peut profiter avec les amis qu'il a. C'est vrai qu'il est jeune, il a besoin d'aussi être avec les amis, mais il est avec la responsabilité de reposer le dimanche. Il est avec nous hier, et aujourd'hui, et demain, il est bien.
Alors le bilan chiffré du Brésilien est tout de même considérable. 13 matchs depuis son arrivée dans la capitale. Il est impliqué dans 18 buts. Le trio Neymar, Mbappé, Cavani est le plus prolifique des 5 championnats européens. Alors Neymar apportera peut-être une réponse ce soir pour faire taire les critiques. Il n'est jamais resté 2 rencontres d'affilée sans marquer avec le PSG. Muet contre les Nantais en Ligue 1, il sait ce qu'il lui reste à faire ce soir face aux Écossais.
PSG, Celtic Glasgow à vivre en fil rouge sur RTL. Enfin, l'histoire d'un jeune conducteur qui bat un record dans son genre. À Ponto de Mer, Saint-Herbe dans le Calvados, un jeune automobiliste a été contrôlé alors qu'il se rendait à son auto-école pour retirer son certificat du permis de conduire qu'il venait d'obtenir. Entre-temps, le test au cannabis a viré au rouge, donc positif aux stupéfiants. Son permis n'aura vécu que quelques minutes.
Vous restez avec nous dans un instant. On se penche sur l'absentéisme au travail. Ça augmente encore dans notre pays. Est-ce qu'il y a un malaise dans le monde du travail? Justement, en France, nous en parlons avec notre invité et on vous écoute. Vos témoignages, vous êtes les bienvenus. 3210, vous avez la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. À tout de suite.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
On va s'arrêter tous ensemble sur l'absentéisme au travail et notamment avec François Eka, l'ancien magistrat de la Cour des comptes et fondateur d'un site d'information sur les finances publiques, fipeco.fr. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous sommes les champions en Europe, champions ou presque juste derrière l'Italie en termes d'absentéisme au travail. Le constat est à la fois dans le privé et dans le public. Les arrêts maladie sont toujours plus fréquents et plus longs. Deux études sont publiées et ces arrêts de travail, ils ont progressé entre 2010 et 2016 de 7,5%. François Eka, est-ce que d'abord, avant de rentrer dans les détails, il y a un problème en France, un malaise avec le travail?
Ah, c'est difficile de le dire, parce qu'on parle beaucoup d'absentéisme et on cite en effet beaucoup de chiffres, mais qui ne sont pas toujours forcément ni représentatifs ni comparables. Je vais vous en donner un exemple. Parfois, dans les arrêts maladie, on met les congés maternité, parfois non. Alors, suivant qu'on les met ou pas, ce que vous venez de dire est vrai, est faux, et on ne sait pas très bien. Alors, donc, est-ce qu'il y a un malaise? Non, il y a un absentéisme. Alors, cet absentéisme, bon, on a quand même quelques idées hein, sur son ampleur, sa nature. En effet, comme vous venez de le dire, il semble qu'il ait augmenté depuis 2010. Mais quand on regarde les statistiques officielles, par exemple, des indemnités journalières de l'assurance maladie, sur très long terme, sur 20 ou 30 ans, on s'aperçoit, ça peut paraître assez paradoxal, qu'il y a beaucoup plus d'arrêts maladie lorsque le chômage en fait est bas. En fait, il y a moins d'arrêt maladie lorsque la situation économique est mauvaise.
Quand il y a un risque de précarité.
Parce qu'il y a un risque de précarité, tout à fait. Et est-ce... donc, ça explique en 2010, la situation était mauvaise, le chômage était élevé, donc les arrêts maladie finalement étaient assez peu nombreux. Et 2016, la situation est bien meilleure. Et donc, il est assez normal, en fait, au vu de ces évolutions de long terme, que finalement, il y en ait un peu plus en 2016 qu'en 2010.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi que peut-être la pression est devenue trop forte et que le management est devenu trop exigeant, d'une certaine manière?
Vous savez, on dit toujours que le management... il n'y a aucune donnée qui ne permette de le dire. Hein. Il y a des études qui sont faites sur les raisons des arrêts maladie. C'est une hypothèse. Je crois que toutes les générations ont dû dire que c'était plus difficile que dans les générations précédentes. Hein. Des tas de choses sont plus difficiles. Ça n'est pas prouvé. Hein. Il y a des études qui sont faites sur les raisons des arrêts maladie qui montrent que l'état de santé, les conditions de travail, l'âge, tout ça joue, hein, sont des facteurs qui jouent. Ce qui joue plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Vous pouvez faire l'hypothèse.
Alors pourquoi une telle différence entre le public et le privé? On disait que par exemple, il y a eu plus 28% d'absentéisme en 10 ans dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les mairies, les départements ou les régions.
Alors c'est vrai que la plupart de ces statistiques montrent qu'il y a plus d'arrêts maladie dans le secteur public, et en particulier dans les collectivités locales, que dans le secteur privé. Donc il y a eu des études assez précises qui ont été faites par le ministère du Travail, justement pour isoler le fait que ça peut venir d'un niveau de qualification différent, de conditions de travail différentes, d'âge différent, tout ça pourrait l'expliquer, mais ça ne l'explique pas.
Est-ce que peut y être pour quelque chose?
C'est vrai qu'il y a une spécificité, du secteur public qui est en effet importante. Il y a toutes choses égales par ailleurs, il y a plus d'arrêts de travail dans le secteur public et dans les collectivités locales.
On parlait de pression, de management, est-ce qu'il y a des problèmes aussi d'envie, de motivation chez les Français de travailler?
Peut-être, mais là encore, je vous ferai la même réponse. Il n'est pas évident que sur le long terme, il y ait moins de motivation à travailler, moins d'envie qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Après, c'est aussi très lié à la situation économique. C'est comme les arrêts maladie. Lorsque la situation économique est mauvaise, le chômage est élevé, le pouvoir d'achat n'augmente pas, les gens se sentent moins bien de manière générale.
Est-ce que le retour du jour de carence qui vient d'être adopté par les députés dans la fonction publique va changer les choses, à votre avis ?
L'INSEE a publié il y a quelques jours une étude assez poussée justement sur l'impact du jour de carence en 2012 et 2013, puisqu'on l'avait instauré en 2012 et 2013, et qui montre que finalement ça n'a pas changé grand-chose. De manière assez bizarre d'ailleurs, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a eu une forte baisse des arrêts maladie de deux jours, compensé par une forte hausse des arrêts maladie de plus longue durée. On peut trouver plusieurs explications, mais au total, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, ça risque de ne pas changer grand-chose.
François Eckel, évidemment, vous restez là. On va dialoguer tout ça avec les auditeurs et auditrices qui vont nous rejoindre dès maintenant au standard. Le numéro à composer, c'est 3210 sur l'absentéisme au travail. Racontez-nous votre quotidien par rapport à tout ça, votre regard, vos critiques. C'est 3210 et puis vos avis sont les bienvenus sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Les amis, Patricia Charbonnier a des bonnes nouvelles concernant le ciel. Tant mieux, c'est dans un instant.
La météo, Patricia Charbonnier, avec cette journée assez parfaite.
Petite parenthèse ensoleillée pour cet après-midi, avec une douceur qui s'installe, qui remonte du sud vers le nord. Cet air doux qui remonte d'Espagne. Cet après-midi, on attend jusqu'à 22 degrés à Biarritz, 17 degrés à Brest comme à Nîmes, 16 à Toulouse, 14 à Lille et Paris, 13 à Dijon et 12 degrés à Nancy, avec du plein soleil sur la plupart des régions. Ça restera quand même assez nuageux comme hier après-midi près de la Méditerranée. Là, le vent marin apporte pas mal de grisaille et même un petit peu de pluie sur les Cévennes. Et puis, on surveille une perturbation qui va circuler ce soir sur près des côtes bretonnes et en Manche. Cette perturbation va s'accompagner de pluies faibles, mais de très fortes rafales de vent, des vents qui vont se renforcer à partir de cet après-midi sur toute la moitié ouest, et on attend un coup de vent classique pour l'automne sur le nord-ouest du pays dans la nuit et demain matin, avec des rafales à 100 km/h sur les côtes bretonnes et sur les côtes de la Manche.
Bon, on se dépêche d'en profiter parce que demain c'est fini.
C'est terminé. Demain, on retrouve un temps très agité avec cette perturbation qui va circuler sur la moitié nord. Beaucoup de vent tout au long de la journée, jusqu'à 70 km/h dans les terres, et des vents encore assez forts jusqu'en début d'après-midi sur les côtes. Sur la moitié sud et dans l'est, ça restera sec demain encore, mais avec un voile nuageux de plus en plus dense et toujours des entrées maritimes près du golfe du Lion. Les températures 3 à 13 degrés demain matin, 12 à 22 dans l'après-midi. Ça reste doux jusqu'à vendredi, et forte baisse des températures à partir de ce week-end avec beaucoup d'instabilité.
Ça va sentir un petit peu l'hiver, c'est ça?
C'est normal.
Merci Patricia.
Bienvenue à vous tous, il est 13h.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Le tout info des auditeurs ont la parole avec vous, Stéphane.
Et d'abord, le boucher des Balkans condamné ce midi à la perpétuité par la justice internationale. 20 ans après la guerre qui a fait plus de 100 000 morts, Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, a été condamné pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Vous mentez, a crié Mladic en réponse à cette prison à vie. Il s'agit d'une victoire capitale pour la justice, selon l'ONU, et pour Human Rights Watch et sa porte-parole Bénédicte Jeannereau.
Enfin, Mladic, celui qu'on surnommait le boucher des Balkans, est enfin confronté aux conséquences de ces crimes atroces. C'est enfin aussi une reconnaissance du sort terrible et de la souffrance des victimes après une si longue attente. Des verdicts comme celui-là, c'est d'abord la clôture d'un très long chemin parcouru d'obstacles, mais c'est aussi un signe envoyé aux personnes qui se rendent coupables de crimes de guerre contre l'humanité. Donc c'est aussi un verdict qui envoie ce signe fort que la justice, un jour, finit par faire son chemin et par faire entendre sa voix.
En France, après la Société Générale qui a décidé de se séparer du FN, client depuis des années, Marine Le Pen, la présidente du parti, dénonce une persécution bancaire qui devient personnelle. Elle affirme avoir été chassée de sa banque HSBC. Elle était cliente depuis 25 ans. Marine Le Pen annonce des plaintes pour discrimination. Toujours pas de mini-remaniement au sein du gouvernement. L'Élysée fait durer le suspense. Du coup, c'est Christophe Castaner, le nouveau leader de La République En Marche, qui assure en ce moment même le compte-rendu du Conseil des ministres, toujours porte-parole du gouvernement, poste qu'il doit laisser prochainement, normalement, selon nos informations, à Benjamin Griveaux, lequel doit être remplacé à son poste de secrétaire d'État. Les rythmes scolaires, l'Association des maires de France fait savoir que la semaine des 4 jours devrait être majoritaire à la rentrée 2018 dans les écoles publiques. 43% des communes ont déjà fait marche arrière, 40% de celles qui sont encore à 4 jours et demi reviendront à 4 jours à la prochaine rentrée. Le gouvernement, vous le savez, a laissé le choix aux communes. Les parents, les enseignants, les élus y sont très favorables. Agnès Lebrun est maire de Morlaix en Bretagne.
Il y a un certain nombre de communes qui sont revenues à 4 jours, notamment les communes rurales, très immédiatement. D'autres ont voulu un temps de concertation. Et puis, enfin, il y a une troisième catégorie de communes qui travaillaient avec des contrats aidés et qui, évidemment, se sont sentis très, très mal à l'aise quand il leur a été annoncé que les contrats aidés n'étaient pas reconduits. Et ceux-là ont aussi pris la décision de revenir à 4 jours. Alors, dire que 4 jours ou 4 jours et demi, c'est bien ou c'est pas bien, c'est plus le sujet. La réalité, elle est complexe. Toutes les communes ne vivent pas la même chose.
La mort au collège d'un élève de 11 ans. Hier après-midi, l'enfant a fait un arrêt cardio-respiratoire lors d'un cross scolaire à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Malaise survenu au début de la course. La victime est décédée à l'hôpital. Le football et la Ligue des Champions. Le PSG reçoit ce soir les Écossais du Celtic Glasgow. 20h45, c'est en fil rouge sur RTL. Paris, qui a tout gagné jusqu'ici et même pas encaissé le moindre but, doit consolider la première place de son groupe.
L'histoire d'RTL Midi, c'est Un jour sur la Terre avec vous, Thomas Proutot. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Marseille quand un soupirant un peu trop ambitieux déclenche une intervention de la police.
Oui, le prétendant avait prévu un scénario grandiose pour demander la main de sa dulcinée. Dimanche soir, sans doute pour porter l'amour au firmament, il entraîne la jeune femme dans l'escalade d'une grue de chantier. Son plan secret se dévoilait une fois au sommet, face à une vue imprenable sur la cité phocéenne. Mais le romantisme ne peut pas tout prévoir, et notamment le spectacle de Dieudonné qui se joue au Dôme à quelques encablures en contrebas. Les policiers sont déployés en nombre, c'est habituel pour les représentations de l'humoriste controversé, et plusieurs d'entre eux repèrent très vite le couple en pleine ascension. Période d'attentat oblige, les fonctionnaires pensent à des tireurs allant se mettre en place, alerte et intervention. Les policiers demandent aux apprentis alpinistes de descendre, contrôle, fouille. Le couple a fini par convaincre les policiers, à tel point d'ailleurs qu'il est ils ont laissé remonter. On a gâché l'ambiance, regrette un des agents, mais peut-être pas tant que cela, car la jeune femme, une fois remontée, a donné sa réponse et ce fut un grand oui.
Et ben voilà, c'est l'essentiel. Merci Thomas Proutot. Un jour sur la Terre, à réécouter sur RTL.fr.